Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de
Dieu
qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Des hommes magnifiques, mais on ne fera pas le culte de ces hommes-là, on ne va pas se mettre à genoux devant eux, mais il nous faut des hommes capables, et nous en allons parler maintenant, des hommes craignant Dieu, des hommes intègres, et des hommes ennemis de la cupidité. Et puis le mot qui m'intéresse apparemment plus fort de gré du texte, j'ai trop dit Moïse, parce que tout le monde n'a pas la même responsabilité, il faut le reconnaître devant Dieu. Il ne s'agit pas de dire parmi nous qu'il y a des généraux et qu'il y a des commandants et des capitaines et des lieutenants et puis des majors. Non, il n'y a pas de grade, il y a des responsabilités. Notre Seigneur Jésus, notre patron, notre chef, notre dirigeant, devant qui on s'agenouille, lui-même en a fait la réflexion dans l'Évangile. Il a donné à ses serviteurs une charge. L'Évangile de Matthieu nous en parle, verset 25, on le verra. Selon chacun sa capacité. Comprenez que Dieu va nous employer selon nos possibilités, nos capacités. Ne parlons pas de la capacité spirituelle, parce que Dieu peut faire un miracle. Il fait parler les âmes, le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec la capacité humaine, ça. Dieu va nous employer dans nos moyens. Le Seigneur donne à chacun de ses serviteurs et de ses servants selon sa capacité. Et le texte que nous avons lu, je veux le relire avec vous. Écoutez-le tellement qu'il est important, Seigneur Jésus. Écoutez. Choisis des hommes capables, Moïse, des hommes craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les, et que ces hommes soient des chefs, non pas des patrons, le mot en parlant ça, des dirigeants, des conseillers, des conducteurs, des bergers, des responsables, et non pas des commandants, des patrons, devant qui on s'agenouille, qui fait marcher à la baguette les gens, mais des modèles plutôt, comme dirait l'apôtre, et que ces hommes soient des chefs, de 10, de 50, de 100 et de 1000. Ça fait une différence entre un chef de 10 et un chef de 1000. Et si malgré la différence est énorme entre quelqu'un qui a un troupeau de 10 et quelqu'un qui a un troupeau de 1000, le critère ne doit pas changer. On ne doit pas être moins, même si on n'a que 10 à diriger. Je trouve qu'on n'a pas dit que pour les dirigeants de 10, on va enlever l'intégrité. On va enlever la droiture. Ou la capacité que tu diriges 10, mon frère serviteur de Dieu, ou que tu diriges 1000, le critère est le même. Les hommes de Dieu, pour 10 ou pour 1000, des petits ou des grands prédicateurs, qui parlent l'anglais, le grec, le javanais ou le latin, ou à peine le français, le critère de la Bible, c'est que tout homme de Dieu qui dirige une église à troupeau, de 10 ou de 1000, ce sont des hommes capables, des hommes craignant Dieu, des hommes intègres et des hommes ennemis de la cupidité. La responsabilité va changer. L'Église va peut-être changer dans son envergure, dans sa masse. Peut-être le rôle, le poste du frère va changer. L'un va être peut-être derrière, l'autre va être devant. Vis-à-vis des hommes, mais vis-à-vis de Dieu, le critère est le même. Est-ce que vous comprenez ça? L'importance à laquelle Dieu nous appelle dans cette réflexion ce matin. Et ça doit nous servir de réflexion, mes frères. Il ne faut pas banaliser, oh moi je ne suis pas dans la direction, oh moi je ne suis pas à tel poste. Alors moi, avec moi, on peut alléger la charge. Les hommes que Dieu se choisit pour servir, pour diriger un petit troupeau de 10, pour être chef de 10, ou chef de 1000, correspond aux mêmes critères et que le Seigneur nous en bénisse. Première idée, il faut développer maintenant, parce que sinon on n'arrivera pas. On estime, d'après les lectures de la Bible, quelque chose entre 2 et 3 millions que le peuple a été dans son complet au désert. Rendez-vous compte, une ville de 3 millions, ça fait pratiquement Paris entre amuros, si vous voulez. Ou trois villes comme Lyon ou comme Marseille, c'est énorme. Alors Moïse, il est bien gentil, c'est lui qui a reçu la loi, c'est l'homme de Dieu. Michel-Ange l'a tellement trouvé divin que cet homme-là qui lui a fait des cornes. C'est le symbole de la puissance. Mais même Moïse, eh bien tout seul ne suffit pas. Il y en a qui sont super gentils, je suis peut-être parmi le lot aussi, j'essaie d'apporter ma petite participation. Mais un homme, mes frères, quel qu'il soit, à lui tout seul, il ne suffit pas. C'est pas un homme qu'il nous faut dans la mission. Un homme qui tire tous les ficelles. Un homme qui commande tout le monde devant qui on se met en garde à vous. Je pense que nos serviteurs refusent, et moi aussi je refuse, et vous refusez ça. Et Moïse, malgré Moïse, il n'avait pas compris qu'il fallait des collaborateurs, qu'il fallait des amis dans le service, et qu'il fallait se décharger dans des charges différentes, donner à certains, selon sa capacité, tel poste de 1000, et avoir le courage de dire non, toi tu ne peux pas diriger 1000, mais toi tu peux diriger 10. Ça aussi c'est important. Et il nous faut toute la grâce de Dieu et l'humilité du Seigneur pour accepter le poste de 10, parce que tout le monde voudrait bien avoir le poste de 1000. Mais il faut reconnaître devant Dieu qu'il y en a qui ne peuvent pas diriger un poste de 1000. Et il faut être humble devant le Seigneur pour accepter un poste de 10. Maintenant, avec cette idée que le Tout-Puissant Seigneur est capable de faire progresser ses serviteurs, et du poste de 10, on peut arriver au poste de 50. Et du poste de 50, on peut arriver au poste de 100. Mais ce n'est pas question de dire, ça y est, j'ai une médaille maintenant. Vous comprenez, arriver à certains postes de la mission, ce n'est pas une couronne de laurier que nous avons, c'est un service de responsabilité. Et que le Seigneur permette que nous comprenions cela au nom de Jésus-Christ, et peut-être nous pourrions mieux servir, parce que le critère numéro un du service, c'est non seulement l'autorité, c'est non seulement la compétence, mais c'est aussi la dépendance de Dieu et l'humilité. Car dès qu'on croit qu'on peut faire quelque chose nous-mêmes, alors nous ne sommes plus à notre poste, à notre place. Que nous mettions nos possibilités au service de Dieu, je pense que frères et sœurs, serviteurs de Dieu, étudiants, candidats, ou quel que soit le poste, nous sommes dans cette bonne chose. Depuis le matin jusqu'au soir, c'est épuisant le service. Et il faut de l'endurance, il faut de la ténacité, il faut de l'engagement. Puis des fois, on pourrait peut-être s'endormir. Et j'ai trouvé, vu que c'était trop. Et des fois, sans faire attention, on s'épuise. D'ailleurs, il l'a dit, tu vas t'épuiser, Moïse. Tu ne pourras pas suffire. Et tu vas épuiser les autres. Et je suis certain que la bénédiction de Dieu ne doit pas éventuellement nous mettre à bout. Elle doit nous bénir, Baron Devel. On n'est pas attaché à notre mission. Ce n'est pas une prison, notre mission. C'est une église de grâce, de bénédiction. Et chacun doit trouver son compte à tous les niveaux de notre foi. Et si on n'est pas dirigé par Dieu, que nous organisons nous-mêmes simplement, avec un programme le meilleur, le plus beau, eh bien peut-être que nous-mêmes, nous allons nous épuiser, aucun problème, et nous allons surtout épuiser ceux qui nous écoutent, c'est ce que j'ai trop à dire à Moïse. Alors Moïse, suis mon conseil. Toi, continue à les enseigner, continue à leur faire connaître. Et puis j'ai trop, peut-être sans trop le savoir, donne un double critère de responsabilité du serviteur de Dieu au niveau de la charge de Moïse, et il met par priorité l'enseignement biblique, l'enseignement doctrinal, les règles de doctrine, les règles bibliques qui sont fondamentales pour l'Assemblée. Et notre structure va dépendre justement de ce respect des règles bibliques, non pas d'un principe simplement ou d'un point de vue. Un point de vue ne dirige pas la mission, c'est la règle biblique qui dirige la mission. Et puis, selon l'enseignement biblique, eh bien, j'ai trop dit à Moïse, enseigne-les, fais-leur connaître. Alors, que nous puissions établir notre mission sur nos sentiments, sur nos points de vue, sur notre cœur contient, mais toujours sans se détourner de la règle absolue, l'enseignement de la Bible. Enseignez-leur, disait le Seigneur Jésus, ce que moi je vous ai dit, ce que moi je vous ai prescrit. Et puis nous avons reçu avec beaucoup d'intérêt hier aussi, bien sûr dans les jours passés, et ça se fera encore demain, dans les jours à venir, les mots de nos frères serviteurs de Dieu, lorsqu'on ne respecte plus cette règle. Lorsque les bornes sont enlevées, et qu'il n'y a plus de garde-fous, qu'il n'y a plus de règles. Il n'y avait point de roi en Israël. C'est marqué 4 fois dans le livre des juges. Il n'y avait plus de règlement, il n'y avait plus de statut, de respect de l'institution, le respect de l'organisation. Il n'y avait plus de roi en Israël. Et chacun faisait ce que lui semblait bon. C'était l'anarchie. Il ne s'agit pas de respecter les hommes, il s'agit de respecter le message que Dieu donne aux hommes, la parole de Dieu, tout bien sûr en respectant aussi nos frères qui sont porteurs de ce message de Dieu, sans faire le culte de ces hommes-là. Alors allège ta charge, Moïse. Et puis, Jéthro, qui donne ce beau conseil, va certainement permettre à Moïse de réfléchir, et Moïse va accepter que ces hommes portent avec toi le fardeau. Que ces hommes portent avec toi le fardeau. Merci Seigneur. Alors le premier critère, je ne voudrais pas trop, mais je voudrais arriver à cette réflexion-là. Écoutez ce petit mot de Jéthro à Moïse, verset 19. Sois l'interprète. Tu sais qu'un interprète, quelqu'un qui traduit un frère, j'aurais appelé quelqu'un, il m'aurait traduit. Tiens, un marnouche, parce qu'il y a peut-être des marnouches ou dans une autre langue. L'interprète, est-ce qu'il va dire différent de ce que moi je dis? Il va traduire mes mots, parce que je ne suis plus un interprète. Si moi je dis Alléluia et que lui dit Amen, il ne m'a pas interprété, hein. Il a prêché. Eh bien, le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est mieux. Le serviteur de Dieu que nous sommes, que Dieu nous donne la grâce. Nous avons, bien sûr, Dieu nous permet de mettre notre réflexion dans la parole. Parce que cette parole passe par notre cerveau, elle passe par notre cœur, elle passe par notre spiritualité, vous comprenez? Et plus le canal est, comment je dirais ça pour ne pas être choquant, est disponible entre les mains de Dieu, maniable, comme le pot dans les mains le pot dans les mains du potier, plus automatiquement l'eau va couler abondamment, avec fraîcheur. Enfin, elle peut être obstruée aussi par de la boue, de la vase ou d'autres choses, et vous comprenez bien que ça ne va pas aller. Alors, mais qu'est-ce qu'on a en vérité? Le mot ne nous appartient pas. Le mot ne nous appartient pas. Écoutez ce texte de la parole de Dieu, comme c'était important. Le peuple vient pour consulter Dieu. Lorsque vous écoutez un serviteur de Dieu, lorsqu'on écoute un frère, c'est Dieu qui nous parle à travers lui. Et je ne veux pas exagérer, on va rester dans la note biblique, mais moi, le mot du frère, il est bien gentil, mon mot à moi, il est bien gentil aussi. Moi aussi, j'en ai des mots à dire. Et je pourrais vous parler jusqu'à, je sais pas quoi, moi. Mais que mon Jésus me fasse, je vais être obligé de mettre mes mots dedans. Je vais être obligé de faire passer mon point de vue, ma conception du texte. Mais qu'on sache comprendre que dans ce mot, il y a le mot de Dieu qui est important. Et ce que j'ai besoin, moi, ce n'est pas de votre réflexion, simplement, elle va m'intéresser. Mais il faut que Dieu l'accrédite. Et si Dieu est avec, et si Dieu donne un ordre, alors ton mot me bénira. Alors, qu'est-ce qu'a dit le Seigneur à Jérémie? Je mets mes paroles dans ta bouche. Tu ne diras pas ce que tu voudras, toi. Tu diras ce que moi, ce que Dieu veut dire. Et puis, non pas l'art, car ce n'est pas un mot d'art, mais c'est le divin qui nous permet de traduire le mot du Seigneur. Et dans le texte, soit l'interprète, c'est pas pour dire ce que je pense, ce que je crois, ce que j'ai fabriqué. C'est pour essayer de dire ce que Dieu veut que notre peuple entende. Et peut-être que dans ce cas de cette convention, de cette retraite, sans jouer au divin, il semblerait qu'on est en train de découvrir qu'il y a un mot de Dieu pour nous. Un mot de Dieu dans l'enseignement, un mot de Dieu dans la protection, un mot de Dieu dans le désordre qui règne et dans la misère que certains veulent nous faire subir. Un mot du Seigneur dans le sens que nous prenons du recul et nous réfléchissons pour mieux faire et non pas servir banalement comme ça, organiser même son petit programme. Il faut s'organiser. Mais est-ce que ce que nous organisons, c'est nous qui l'avons fait ou c'est Dieu qui nous a montré le chemin? Vous comprenez bien, il faut que le peuple n'arrive pas à notre destination, à nous. Il faut que le peuple arrive à la destination que Dieu a programmée. Et c'est Dieu qui a programmé la destination de Canaan. On ne conduit pas là où on veut le peuple. On le conduit là où Dieu nous a montré de le conduire. Il faut donc suivre le chemin que le Seigneur a tracé. Alors, c'est pas une art, mais c'est tout l'apprentissage du divin et que Dieu nous l'y permette. Merci Seigneur. Alors, le peuple doit être des hommes capables. Je voudrais commencer avec ce mot-là. Je sais que je ne pourrai pas faire grand-chose, mais que le Seigneur dirige, c'est pas grave. Je pense que le mot de Dieu nous bénira, nous fera réfléchir. On retiendra les quatre mots, c'est sûr. Peut-être qu'on n'en expliquera que deux. On essaiera de les frôler, tout simplement. Le restant, ce sera pour la gloire du Seigneur à sa volonté. Choisis donc des hommes capables. Et qu'il est bien clair, je ne vais pas me répéter, ça ne sert à rien. Moi, tu sais, frère, j'ai même pas d'église. Pardonne-moi, pasteur. Moi, j'ai un petit troupeau. J'ai un petit feu. La mission a démarré comme ça. Eh bien, ça ne change rien, mon frère. Même que tu ne sais pas parler le grec ou l'anglais, que tu as un petit feu et que tu as 3 personnes, tu diriges au moins 10 personnes, tu as un petit troupeau de 10 personnes. Eh bien, la Bible te demande de grandir dans ces 4 vérités et de vivre ces 4 vérités. Maintenant, toi, tu as la plus grande église de France, tu es le Superman. Non, je sais bien que ce n'est pas le mot est déplacé là. Eh bien, ne te prétends pas, tu n'es pas plus grand que celui qui a 10. Parce que comme toi, lui, il doit être capable, il doit être craignant Dieu, il doit être intègre. Et il doit être ennemi de l'argent, ennemi de la cupidité. Les serviteurs de Dieu doivent donner ce portrait. Le peuple dit pas Amen pour ça? Et il n'y a pas que les serviteurs de Dieu. Les chrétiens doivent aussi avoir ce portrait. Amen? Parce que à vous aussi, l'enseignement biblique, frères et sœurs, vous est distribué. Merci Seigneur. Alors, la Bible nous met en avant des hommes. Et je voudrais essayer tout simplement, rapidement, de rappeler cela. Comment s'appelle le père fondateur d'Israël? Père fondateur d'Israël, Nous avons Abraham pour père, disaient les Juifs en Jean 8. C'est Abraham. C'est Dieu qui a appelé cet homme-là depuis Ur en Chaldée et qui a fait de lui le fondateur du peuple juif. Et le ministère d'Abraham, la Bible relate, Paul en parle beaucoup, il est fondé sur deux critères principaux. C'est la foi et l'obéissance. Le ministère d'Abraham est vraiment exécuté dans ces vérités-là. On ne voit pas Abraham faire des miracles, on ne voit pas Abraham enseigner les diverses vérités bibliques, mais c'est un homme avec qui Dieu fonde son peuple, devient le père de la race juive, et de ce fait, le monde entier est béni à travers lui, il est devenu une source de bénédiction pour l'Église, et son critère de service, c'est foi et obéissance. Et c'est important. Mais non pas qu'il a été dépassé, parce qu'Abraham restera toujours le père de la race juive. Et jamais personne ne prendra sa place. Même Jésus n'a pas pris la place d'Abraham. Mais il a fallu pour conduire le peuple, mais il a fallu pour diriger le peuple, et pour donner la législation au peuple, les ordonnances, les modes de conduite, il a fallu que Dieu suscite un deuxième homme. Et c'est en Moïse que nous avons tout le règlement de la conduite. Moïse aussi était un homme de foi. Moïse aussi était un homme d'obéissance. Mais il avait ce que Abraham ne pouvait pas avoir. Il avait été instruit dans toute la science d'Égypte. Et Dieu s'est servi de cette capacité humaine qui l'a purifié. Lorsque Moïse a voulu servir avec sa capacité cervicale humaine, il a fait des blagues. Il a tué un Égyptien. Lorsque quelqu'un prétend, moi je suis Moïse, j'ai étudié les sciences, je connais toutes les langues. Si Dieu ne rend pas capable, même à Moïse, de la puissance divine, eh bien on fera plus de blagues que de bien. Et lorsque Moïse a voulu partir avec ses capacités seulement intellectuelles, cervicales, eh bien ça n'a pas suffi. Mais néanmoins, il faut dire reconnaître la vérité. Toute la foi et toute l'obéissance est fondée sur l'exemple d'Abraham. Et il est toujours repris dans la Bible. Mais toute la législation, toutes les ordonnances, toutes les règles de conduite sont fixées sur la loi mosaïque et sur Moïse. Parce que Dieu a employé, en plus de l'amour et de la foi, un homme de capacité. Alors nos capacités mises au service de Dieu, purifiées par le Saint-Esprit, vont certainement servir de bénédiction. Et ce qui est formidable, c'est que ça se reproduit dans le Nouveau Testament. Qui est le fondateur de l'Église? Façon de parler, c'est notre Seigneur qui est la pierre angulaire. Mais qui a reçu les clés du royaume? C'est l'apôtre Pierre. La parole de Dieu nous dit dans le texte, d'après ce qui est dit, que c'était des hommes du peuple sans instruction. Le texte, sans vouloir dire, illettrés. Et c'est certainement possible. Leur vie se passait, vous savez, entre leur maison et le lac de Galilée, des pêcheurs. Ils n'avaient certainement pas été à la grande école rabbinique de Jérusalem. Ça n'allait pas, certainement. Ils avaient été éduqués dans la loi par rapport aux scribes, aux pharisiens, aux enseignants de la synagogue, tels que les parents avaient transmis la parole de Dieu, mais leur science n'était pas une science intellectuelle. Et pourtant, c'est lui qui a fondé le Nouveau Testament. Pratiquement, l'Église repose sur lui. Dans le sens que Jésus a dit, sur cette pierre que tu confesses qui est moi Jésus, toi le petit caillou, eh bien avec toi je vais fonder mon église. Donc Abraham est le fondateur du peuple juif, Pierre est le fondateur de l'église. Mais vous comprenez bien qu'il a fallu quelqu'un d'autre pour instruire l'église. Vous comprenez bien qu'il a fallu un autre serviteur de Dieu pour donner tout le règlement de l'église, toutes les structures de l'église, toutes les doctrines de l'église. Et Dieu a suscité un homme qui avait été éduqué dans la plus haute science du judaïque, dans la plus haute science des pharisiens, dans la connaissance exacte de la loi. Et c'est un Saul de Tarse qui pourtant persécutait l'église à mort, que Dieu a choisi, l'a purifié. Et Paul aussi était un homme de foi, Paul aussi était un homme de prière, Paul aussi était un homme d'amour. Mais il avait ce que l'apôtre Pierre n'avait pas, il avait encore reçu la haute science biblique pour instruire toute l'église de Jésus-Christ. Alors voyez, Dieu se choisit des hommes comme il veut, il se choisit des Moïse, des Abraham, il se choisit des Pierre et des Paul. Et qu'il me soit pardonné, au contraire, à travers ce mot, je veux honorer ce que Dieu a fait au sein de notre peuple. Notre peuple est calqué sur l'Évangile. Notre mission est calquée sur l'Évangile. Et dans la mémoire de nos anciens, on est en train de jouer la même situation. Lorsque Dieu a suscité le miracle parmi nous, nos pasteurs, les premiers du début, ceux qui furent les fondateurs de notre mission, car que vous le vouliez ou pas, si vous êtes là, c'est à cause que Dieu s'est choisi des hommes anciens, c'est à cause que Dieu a appelé des Mannes, des Tutures, des Pinards, des Carlous, des Andrés, des premiers, et il y en a encore plein qui sont vivants, pardonnez-moi citer que ces noms-là simplement, mais les anciens. Et à ma connaissance, au début, Ben, c'était les hommes qui étaient comme, si vous voulez, pardonnez-moi, ça c'est merveilleux, c'était les Abraham de notre mission, c'était les pierres de notre mission. Et merci Seigneur, c'est eux qui ont fabriqué la mission. C'est eux qui ont été les fondateurs de notre mission et qui ont suscité ce grand réveil. Mais la mission s'est structurée, la mission s'est élargie dans le monde. Alors gloire à Dieu, il nous faut encore ces hommes-là. Que Dieu nous en donne encore. Mais maintenant, la mission ayant grandi, eh bien il faut que des Moïse se rajoutent et il faut que des Paul se rajoutent. Des hommes de la doctrine, des hommes de l'institution, des hommes de l'enseignement, car pour structurer la Bible, il faut plus que de la foi, il faut plus que de l'amour, il faut de l'enseignement biblique. Et c'est ce qui s'est passé chez nous, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le même critère de l'Évangile. Et sans essayer de dire, parce que qui est plus grand qu'Abraham? Qui est plus grand que l'apôtre Pierre? Pas possible. Chacun joue son ministère, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors dans le service, bien sûr qu'il y a le bon désir, et j'encourage les hommes à faire quelque chose pour Jésus, à quelque niveau que ce soit. J'encourage les frères et les sœurs à prier Dieu pour leurs serviteurs, afin que Dieu nous donne les hommes que lui a décidés. Mais ces hommes-là, on va les choisir parmi nous. Ce n'est pas un ange qui va aller dire, tiens, je veux lui, là. Je m'étonnerais, hein. Ça ne court pas trop les rues, vous savez, hein. Et il faut de la sagesse à Moïse. Il faut de la prière pour dire, Jésus, mon Dieu, donne-nous les hommes qu'il faut. Alors on essaye, justement, tenez, on essaye dans notre convention ici, c'est le temps qui est venu, de demander justement à ce que des hommes s'adjoignent à nous pour nous donner leur main d'association, leur collaboration, peut-être pour apporter une bénédiction supplémentaire. Non pas rajouter 2, 3, 4 hommes de plus, c'est pas ça qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est pas enlever et rajouter, bien que ça, c'est la législation de notre décision. Nous sommes des démocrates et nous fonctionnons comme ça. Mais j'espère que Dieu va diriger nos pasteurs lorsqu'ils choisiront et que les hommes qui sont mis en poste ne soient pas des noms, mais soient des ministères. Parce que quel que soit le nom que tu portes, le nom n'est pas important. C'est la responsabilité du ministère qui est important. Car dans certains cas, et dans tous les cas, c'est le ministère qui s'exerce. Alors, regardons la parole de Dieu par rapport à cela. Et ce qui est curieux, ce que nous venons de lire là, c'est le chapitre 18. Je ne sais pas si Moïse a courte mémoire. Pardonne-moi Moïse, tu crieras comme tu voudras sur moi, comme tu verras dans la gloire. Mais au chapitre 17 est citée l'histoire de la bataille d'Amalek avec Josué. Moïse aurait dû se rappeler le chapitre avant. Ah oui, même qu'on s'appelle Moïse, on a toujours besoin de réflexion des autres parce que nous sommes souvent oublieux. Mais le chapitre avant, Moïse ne s'est pas rappelé qu'il avait besoin de ses copains parce qu'il était en train de perdre la guerre, Josué. Et il a fallu que ce soit Josué qui dit à Moïse, c'est plus Jéthro là, c'est un de ses copains. Là c'est son beau-père dans le chapitre 18. Mais dans le chapitre 17, c'est son collaborateur, Josué, son dauphin, celui qu'il avait suscité dans ses pas. Et c'est Josué qui a dit, Moïse, si tu montes pas sous la montagne, je suis perdant. Monte sur la montagne et prie pour moi. Et Moïse a accepté le conseil de son jeune candidat au service. Un jeune serviteur de Dieu, c'est quoi Josué à côté de Moïse? C'est rien! Et Moïse a dû comprendre que ce mot-là venait du Seigneur. Je fais ma part, Moïse, mais j'y arrive pas. Si tu viens pas à mon secours, monte sur la montagne. Et Moïse est monté sur la montagne, en levant les mains en haut. Et le Seigneur, dit le chapitre 17 de l'Exode, lorsque Moïse avait les mains levées, Israël gagnait. Et le grand Moïse se fatiguait, car lui aussi, c'était du matin au soir. C'est marqué dans la Bible que le combat a duré. Alors, personne n'a appelé. Personne n'a appelé. C'est pas Moïse qui a dit, venez de m'aider! Ce n'est pas Josué qui a dit, regarde, Moïse, réfléchis. C'est des hommes qui ont décidé. Ils ont dit, on ne peut pas le laisser seul, nous sommes là. Il faut qu'on va le soutenir. Vous voyez, c'est pas la peine non plus que moi je nous voir, ou que Dieu je nous voir. Il faut que les hommes aient une conviction personnelle, et qu'ils disent, moi je vais aider ces hommes, moi je vais m'engager pour servir. N'attendez pas que 5 ans vous confirment, n'attendez pas d'avoir des révélations, des visions. Si vous pouvez faire un travail, et si vous pouvez me lever mes bras simplement, eh bien moi je vous demande, venez me le lever. Et ces hommes-là ont dit, il faut qu'on l'aide. Aaron a dû parler à Hur, Hur a dû parler à Aaron. Et Aaron a compris, c'est eux les deux combattants. C'est Josué le principal. Et c'est Moïse l'homme important. Nous, nous sommes que des pièces rapportées. Mais on va jouer notre petit rôle. Et ils n'ont pas fait grand-chose, les copains. Ils ont fait asseoir Moïse sur le rocher. Ça, c'est la meilleure place, c'est le Christ. Et ils ont pris ses mains, ils l'ont levé. Et parce qu'ils ont soutenu les mains de Moïse, la victoire a été totale. Alors, j'appelle des hommes ce matin. Non pas que j'ai le pouvoir de le faire. J'ai aucun pouvoir de décider qui va être et qui va pas être. Mais je fais cette réflexion. Un homme seul ne peut rien faire. Il nous faut des hommes peut-être encouragé par d'autres. Jéthro a encouragé Moïse, Josué a demandé à Moïse, mais Aaron et Hur ont décidé eux-mêmes, et ils furent dans le plan de Dieu. Alors peut-être qu'il y a des convictions personnelles. Ce n'est pas la conviction, c'est le travail qu'on va faire. C'est l'œuvre qu'on va faire. C'est la fidélité qu'on va faire qui va prouver que Dieu nous a appelés à la place où nous sommes. Comment connaîtra-t-on qu'un prophète soit prophète de l'Éternel? Eh bien la Bible dit, c'est parce qu'il s'accomplira de sa prophétie que sera prouvé qu'il soit prophète de l'Éternel. Donc c'est par le travail qu'on va fournir, par l'œuvre que l'on va faire, et sans tambour ni trompette, on n'a pas besoin de ça, nous. On a besoin que Dieu nous emploie, on a besoin que Dieu nous parle pour parler au peuple. C'est la preuve, dit Paul, que Dieu parle en moi et que Dieu parle par moi. Et sans jouer les héros, sans jouer les fortiches, si les serviteurs de Dieu, prédicateurs d'évangile à leur poste de service, dans leur groupe, dans leur église, et dans la direction et dans toutes les postes de notre mission, le plus important, c'est pas seulement que la science que nous avons, l'étude que nous faisons, bien que devant Dieu c'est très utile et très important, mais c'est que Dieu parle en nous et que Dieu parle par nous. Sois l'interprète de Dieu auprès des hommes. Et c'est tellement important ça. Alors dans l'équipe, est-ce que la Bible ne dit-il pas? Et ça revient à la pensée de notre frère Bâle encore hier. Il n'a pas cité ce verset, mais ça veut dire la même chose. Malheur à celui qui est seul et qui tombe. Un homme seul n'est pas l'œuvre de Dieu. Pas possible. Gazon me disait hier, je ne vais pas me citer son nom, une réflexion de sagesse. Il me disait en général, selon la parole de Dieu, lorsque Dieu a suscité un réveil, il a toujours été bon, il a toujours été vrai. C'était le fondement. Et c'est de ce réveil qu'est sorti les hérésies. Jamais une hérésie a donné un réveil. Jamais! Jamais une hérésie, une erreur, n'a suscité un réveil. Mais les hérésies, les erreurs sont sorties du réveil. Le fondement, c'est le réveil, vous comprenez ça? Et par rapport à ce que nous avons entendu hier, le réveil demeure. Et ceux qui sont sortis ne vont pas arrêter le réveil, loin de là. Mais bibliquement parlant, la séparation n'est pas le réveil. Et je ne voudrais pas entamer, continuer, ça ne sert à rien. On en a écouté. Et si je me permets, alors je conseille à tous les serviteurs de Dieu et même à tous les chrétiens de ne pas partir en tous les cas. Si vous partez sans ma cassette à moi, ce serait dommage, mais c'est pas grave. Mais ne partez pas sur la cassette de Baalo, elle est plus utile que la mienne. Par rapport à l'avertissement et au besoin justement du danger qui guette, et c'est utile. Je ferme la parenthèse et je vous remercie. Malheur à celui qui est seul et qui tombe. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Lorsque des hommes sont dans la pensée de Dieu, ils ne se séparent pas de leurs copains. Ils les appellent. Pierre était en train de pêcher avec André et un peu plus loin, il y avait les collègues. Ils n'avaient rien pris. Ils ont fait appel à leurs compagnons. Ils ont partagé le travail et ils n'ont pas séparé le travail. Ils se sont rapprochés et pas éloignés. Je pense que dans le cadre de notre mission, c'est un petit peu l'idée que nous développons ce matin dans le système de la collaboration. Alors la capacité, laissez-moi vous en dire quelques mots. Lorsque Jéthro dit « choisis des hommes capables », il ne parle pas des hommes qui parlent en langue, à l'époque on ne le faisait pas, il ne parle pas des hommes qui étaient remplis de sagesse divine ou de révélation, c'était vraiment des hommes qui avaient une capacité humaine, une possibilité de faire quelque chose. Mais Dieu doit être avec et après il doit donner des capacités spirituelles. Alors la capacité telle que la Bible conçoit, eh bien c'est quand même, qu'on le veuille ou pas, des capacités que Moïse avait, des capacités que Paul avait, et des capacités qu'on retrouve, si vous voulez, au niveau de la science biblique. Et comme je dis la science biblique, ne voyez pas derrière des cerveaux, des génies, des intellectuels, bien que ce n'est pas grave d'avoir une grande science si on est toujours spirituel et humble en Dieu. C'est très dangereux d'avoir une grande science si on n'est pas gardé dans le Seigneur, car la connaissance en elle-même, elle offre. C'est l'amour qui édifie. Et l'amour est justement la garantie de la science. L'amour, c'est l'humilité en même temps. Et c'est la garantie de la connaissance. Et que le Seigneur permette que nous comprenions cela. Alors, choisis-toi des hommes capables. Capacité en Christ. Merci Seigneur. Il faut que je passe, car il y a tellement de mots qui est important à dire. Je vais essayer de vous en dire l'essentiel. Voilà. Le mot de Jésus tout à l'heure, je vous le cite, je vous le rappelle. Si Jésus l'a dit, alors c'est indiscutable. À lui seul suffit, c'est la règle que les apôtres ont pratiquée et qu'on retrouve dans la loi, à partir des exemples cités. Matthieu 25, 14. Il appela ses serviteurs et il leur remit à chacun selon ses capacités. La Bible ne dit pas de 10, 50, de 20 ou de 100, mais certainement ces mêmes critères. Il a donné des talents à chacun selon la capacité de pouvoir faire valoir. Jésus a misé aussi sur les possibilités de service. Mais lorsque les malades ont été guéris, c'est plus une capacité humaine ça, c'est un pouvoir que Dieu a donné. Vous comprenez? C'est pas la peine de savoir lire et écrire et de parler l'hébreu et le latin pour prier pour un malade et le guérir au nom du Seigneur. C'est pas une capacité humaine, c'est une puissance de Dieu ça. Mais il faut qu'elle ait la vie du serviteur de Dieu, surtout au niveau d'une idée de gérant de direction, il faut qu'il y ait cette réalité. Le service de Dieu, c'est une spiritualité. Mais il réclame souvent des compétences à certains postes. Et vous savez, Dieu est témoin, Jésus est témoin. Peut-être que c'est pour vous faire comprendre, vous allez peut-être râler si je dis ça, mais ce n'est pas grave, je l'ai dit au serviteur de Dieu. Il y a certains postes de la mission où ce n'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr. Parce que s'il faut sortir de Saint-Cyr, alors moi, vous me mettez de côté, je n'ai pas sorti de Saint-Cyr non plus. Hein. Mais il y a certains postes, il faut le reconnaître, qu'en plus d'être spirituel, de prier, d'aimer Dieu, lire sa Bible, avoir la foi, il y a certains postes, permettez-vous de prendre secrétariat peut-être, trésorerie, administration, il faut un peu de jugeote. Donc il y a certains postes qui demandent un peu de jugeote. Mais on ne va pas nous faire devenir des intellectuels pour ça. Le critère, pour ces hommes-là comme pour moi, sera toujours les quatre critères de la Bible, et surtout les trois critères qui s'associent à la capacité, des craignants Dieu, des intègres, des ennemis de la cupidité. Car même si tu sors de Saint-Cyr mais que tu n'as pas ces trois critères, alors tu te mets de côté, la mission n'a pas besoin de toi. La mission n'a pas besoin de gros cerveaux. La mission a besoin de compétences, à condition que tu craignes Dieu, que tu sois intègre, et que tu sois ennemi de la cupidité. Voilà les postes que les hommes d'importance peuvent occuper. Et c'est en accord avec ces trois vérités de la Bible que Dieu nous envoie en même temps des hommes qui occupent certains postes dont nous en avons besoin. Et c'est très important, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit ne nous dispense pas, mes frères, de la capacité. Au contraire, il les emploie, et si nous les mettons à la disposition de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible. Il est marqué dans un texte de la Bible, je vous fais grâce. Si tu trouves des hommes capables, c'était à Joseph que le mot a été dit, alors tu mettras ces hommes à la tête de mes troupeaux. Sur le plan spirituel, il y a une réflexion à faire. Nous dirigeons le troupeau du Seigneur, nous dirigeons l'église de Jésus, nous sommes des bergers, et c'est sûr et certain que dans la capacité spirituelle, jumelée avec quelques capacités aussi, disons, d'ordre naturel, si vous voulez, sans exagérer la note, mais la réflexion est faite. Ce sont des hommes capables qui doivent diriger le troupeau, c'est marqué dans la Bible. Des hommes qui surveillent, il y a tellement de loups. Il y a tellement de loups, des brebis déguisées en loups qui vont faire attention. Le Saint-Esprit nous a établi évêque pour protéger, nourrir, garder, conduire. Et comment allons-nous le faire? Eh bien, par l'enseignement de la parole de Dieu. Nous allons le voir d'ailleurs, la Bible nous en donne quelques mots. Il y a ce mot-là, par exemple. Il est dit, les hommes capables que tu trouveras, eh bien, tu les feras servir dans le palais du roi. On peut servir dans tous les endroits de la terre. Mais dans le palais du roi, il faut des hommes qui ont un peu plus de capacité que les autres. Donc certains postes demandent un peu plus de possibilités. Et je ne veux pas forcer Seigneur Jésus, parce que c'est toujours jumelé avec le spirituel. Mais néanmoins, la note, elle est là. C'est important. Et nous avons Daniel, de qui il est dit. Daniel avait un esprit supérieur. Il n'écrasait jamais ses frères, Daniel. Jamais Daniel n'a écrasé Shédrach, Meshach, Abednego ou les autres. Au contraire, il les a toujours élevés. Mais néanmoins, la Bible souligne que cet homme-là était doué de sagesse, d'intelligence et qu'il avait un esprit supérieur. Alors là, bien sûr, c'est au niveau révélation divine. Il a jumelé une possibilité. Il était de la tribu royale de Juda. Il avait certainement une connaissance et une science développée. Mais son esprit supérieur, ce n'était pas son intellectualité. Elle se jumelait avec sa capacité spirituelle. Et que le Seigneur permette, en ce qui nous concerne, que nous puissions le comprendre en chacun de nous. Alors les mots du Nouveau Testament. Les mots du Nouveau Testament sont très importants. Écoutons-les. C'est l'apôtre qui parle. Paul, Corinthiens. Notre capacité à nous, c'est la nôtre maintenant. Nous demandons au Seigneur de nous donner un peu de jugeote, un peu de science, mais mis au service de Dieu. Pas la science tout seul, nous n'en voulons pas. Pardonnez-moi si je dis ça, Seigneur Jésus, que Dieu nous les donne, il nous en faut, il faut reconnaître devant le Seigneur. Mais sur le plan service de Dieu, jumelé avec ce mot, notre capacité à nous, et Paul se met dedans, il avait toute la science à Paul, mais il se met dedans. notre capacité à nous, elle vient de Dieu. Et c'est ça la plus belle de tous, la plus grande de tous. Lorsque Dieu rend un homme capable, alors il rend un homme capable qui n'a pas de cerveau, pardonnez-moi si j'exagère, et il rend un homme qui a deux cerveaux. Mais là, il rend capable, et les deux vont glorifier Jésus et vont être des instruments de grâce. Ça va être un Pierre et ça va être un Paul. Tous les deux vont être des bénédictions pour l'Église, mais chacun à leur niveau respectif de service. L'un ne va pas être plus grand que l'autre. L'un va être employé pour une activité différente de l'autre. Et c'est important. Notre capacité vient de Dieu. Et Paul renchérit. Et il dit dans sa lettre, c'est lui qui nous a rendus capables d'être ministre de l'Évangile. Serviteur de Dieu, ce n'est pas qu'une bonne décision. Ce n'est pas qu'un désir. Ce n'est pas qu'un vœu et qu'un souhait. Parce que vous souhaitez que ton fils soit pasteur, ma soeur, que directement, ça y est, le mot magique va devenir. La Bible déclare qu'il y a un bon désir, c'est sûr, un engagement, un bon témoignage. Mais il y a aussi une capacité divine, puisque la Bible déclare, il nous a rendus capables d'être ministres. Mettons dans le domaine de la garantie de notre Église, dans le domaine de la structure biblique évangélique, de nouveau l'apôtre Paul rappelle cela, et nous sommes capables d'enseigner les saintes doctrines. On peut tous prêcher l'Évangile, mais il y en a qui ont reçu de Dieu un ministère d'enseignement. Alors bien sûr, tous les pasteurs peuvent enseigner les vérités de la Bible. C'est pas la peine d'être un docteur pour parler du baptême d'eau quand même, Seigneur Jésus. C'est pas la peine d'être un docteur pour parler du retour de Jésus-Christ. Peut-être qu'il y a des détails que l'autre frère qui a étudié 30 ans de plus a peut-être une notion supplémentaire. Je veux bien le comprendre. Mais ce n'est pas que le cerveau qui décode la Bible. On ne comprend la parole de Dieu que par l'Esprit de Dieu. L'intelligence va se rentrer dedans, c'est sûr et certain. Mais les deux vont se conjuguer pour être là. Alors des hommes capables de l'enseigner aux autres. Et nous avons besoin dans notre mission, c'est une garantie. C'est une, si vous voulez, ce sont des Moïse qui se rajoutent à Abraham, ce sont des Paul qui se rajoutent à Pierre. Et c'est ce qui s'est passé, que Dieu soit béni. En rien, personne n'est diminué. Mais nous servons ensemble notre Seigneur et que son saint nom en soit béni. Et il y a un mot que Paul rajoute, et c'est important. Il lui dit ça dans une des lettres qu'il écrit à Timothée. Il dit, tu confieras les charges à des hommes fidèles. Et il met le mot fidèle avant le mot capacité. Des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner. Donc jamais le critère de la fidélité ne doit être mis en dernier plan. Il doit toujours être mis en avant. La droiture, et qui correspond, si vous voulez, à l'intégrité, en craignant Dieu. Des hommes fidèles, ça c'est le critère numéro un. Pas de problème. Tu confieras les responsabilités d'enseignement à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner. Et que le Seigneur permette, ce que vous savez fort bien d'ailleurs, et c'est très important. Maintenant, je ne voulais pas dire cela, mais c'est un petit détail, mais il est sur mon texte. Ça ne concerne pas que une partie. Il est dit que Abraham et Sarah, ils n'avaient pas 18 ans. Vous savez qu'ils étaient quand même déjà en avance en âge. Ils avaient l'âge de la retraite. Et ils l'avaient passé, hein. 90 ans et 99 ans. Eh bien, on l'a un coup, hein. Ils n'auraient pas été acceptés à la réunion de jeunes, hein. Eh bien, Dieu a fait un miracle pour ces hommes-là. Les hommes disponibles, les hommes de foi, les hommes d'obéissance. Et Sarah était la femme soumise dans la Bible. Eh bien, il est dit d'elle dans le livre des Hébreux, jumelée avec son mari, Dieu l'a rendue capable. Impossible. Impossible, impossible. Vous auriez été trouvé tout le monde, impossible. Mais ce qui n'est pas possible aux hommes est toujours possible à Dieu. Alors, c'est vrai que tu peux dire, mais moi, je ne peux pas. Vous croyez que je peux, moi? Moi, je ne peux rien. Je ne m'humilie pas, je ne sais pas de vous embarrasser. Je disais, et je vais vous le dire pour vous bénir, si je peux. Je rappelais à mes copains hier, dans les conversations, lorsque notre bien-aimé frère Le Cossec, en 71, il y a quelques années, est venu me trouver, et m'a dit, Jimmy, je ne peux plus suffire en France et à l'étranger. Et j'ai besoin d'un compagnon de route pour me partager le fardeau. Il y avait plein d'autres, hein, plein d'autres qui pouvaient plus, c'est bon, peu importe, c'est pas de comparaison, c'est nuisible. Et Dieu qui est témoin, il sait que je m'attendais à tout, mais pas à ça, à tous les cas. Et il m'a convaincu pour un mot. Pour un mot. Il m'a dit, si tu viens pas à mon aide, peut-être que lui était convaincu jusqu'au dernier degré, je ne pourrai pas faire le travail que Dieu me demande. Je ne pourrai pas me rendre libre. Pour aller là-bas, il faut que je sois dégagé ici. Et Dieu qui est vivant parmi nous, la gloire lui appartient. C'est que je dis oui au frère Le Cossec, non pas pour prendre un poste, mais pour lui permettre de faire plus. Je dis, si à cause de ça tu es bloqué, eh bien tu iras.
j'essaierai de faire ce que je peux. Et ça fait 30 ans que j'essaye de faire ce que je peux avec mes copains. Merci Seigneur. On n'occupe pas un poste pour avoir un titre, on occupe un poste pour faire un travail. Et pour permettre aux autres de faire un peu plus. Et c'est sur ce critère-là que chacun de nous sert. Nous devons nous aider les uns les autres, collaborer les uns les autres, permettre à l'autre de faire quelque chose. Moi, je sais chanter comme un ténor. Oui, mais à chaque réunion, c'est quand même pas moi qui va chanter quand même, non? Il y en a d'autres qui chantent moins bien, mais aussi ils ont la joie de chanter. Une orchestre, ce n'est pas qu'un instrument, c'est un ensemble. La mission n'est pas qu'une flûte ou une guitare, c'est un ensemble de frères, un ensemble de sœurs où chacun doit, au nom du Seigneur, jouer son rôle. Lorsque le cantique déclare « Fais de moi une symphonie, fais de moi un instrument », alors un instrument, c'est une responsabilité personnelle. Je suis l'instrument. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. C'est Paul, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Mais aussi le cantique rappelle, avec beaucoup de sagesse, faites-moi une symphonie. Une symphonie, ce n'est pas un instrument tout seul. C'est accordé avec plusieurs. C'est une équipe de frères qui travaillent ensemble. Alors vous êtes un instrument tout seul, mais vous n'êtes pas une symphonie tout seul. Vous n'êtes pas une orchestre tout seul. Nous sommes un instrument tout seul, mais nous ne sommes pas une équipe tout seul. Et Dieu n'a pas fait un homme isolé. Malheur de lui qui est seul et qui tombe. Dieu a fait une équipe ensemble. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Ne l'oublions pas. Merci Seigneur. Nous avons l'exemple de Bézalel dans la Bible, où c'était certainement un homme formidable. Un homme de science énorme, peut-être de son temps. Puisque la Bible déclare de lui que Dieu l'a appelé, Dieu l'a choisi, mais que Dieu l'a rendu capable de faire le tabernacle avec tout ce qui est ustensile. Et ce qui est à remarquer de ce grand personnage, c'est lui qui est en avant, mais il a aussi Olibah, qui est son collègue, à qui Dieu l'a aussi rendu capable. On parle très peu de lui, il est dans l'ombre de cet homme-là, mais il est là aussi. Il y a des gens qui n'auront peut-être pas leur nom à l'affiche très souvent. On parlera pas de beaucoup, parce qu'on, et pourtant Dieu sait combien que dans l'ombre des autres, ils seront beaucoup utiles, et ils seront des collaborateurs énormes. Mais ce qui est important avec cet homme-là, c'est que la Bible déclare qu'il était capable de travailler de l'or. Oh, travailler de l'or, tout le monde le veut. Hein? Ciseler de l'or, faire de l'orfèvrerie, un métier d'art. Mais la Bible déclare que cet homme-là était capable aussi de travailler le bois. Ça n'a plus de valeur, le bois à côté de l'or. C'est zéro, c'est rien. Lorsqu'on sert Dieu, on se réjouit de travailler sur l'or et on se réjouit de travailler sur le bois. Mais il y en a qui veulent que travailler sur l'or, le bois ne leur intéresse pas. Je suis trop grand, moi. Je suis pas un petit prédicateur, moi. Et pardonnez-moi si je choque au-dessus des mots déplaisants. Eh bien, lorsque Dieu nous choisit et qu'il nous rend capable, on a beaucoup de joie à travailler sur l'or et on a beaucoup de joie à travailler sur le bois. Quel métier bizarre, cet homme-là, ce grand homme, Bézalel. La Bible déclare qu'il était capable de broder. Vous me permettez? Un métier de femme, quoi. Oui, c'est pas les hommes qui brodent, quand même, non? Eh bien, lorsqu'on sert Dieu, et s'il nous demanderait de broder, Seigneur, c'est pas mon travail, mon Dieu, c'est une femme, ça. Ça veut dire qu'un homme est humble, et il peut faire le travail le plus simple. Hein? Broder, barificoter, c'est pas comment on dit, mais un truc comme ça. Travaille l'or, mon frère, c'est un beau service. Travaille le bois. Mais si Dieu te demande de coudre, la Bible déclare qu'il cousait, cet homme-là. C'est marqué dans la Bible! Exode 35, vous verrez, vous lirez ça. Il cousait les tentures du tabernacle. Le sein à un autre, mon frère. Non, pourquoi? Tu veux le faire? Non, mon frère. C'est Dieu qui m'a dit de le faire. Alors je couds. Si Dieu te demande de cirer, cire. Si Dieu te demande de coudre, coudre. Fais ce que Dieu te demande. Ne fais pas ce que tu veux, toi. Et le plus important, c'est pas de faire ce que nous, on veut. C'est de faire ce que Dieu nous veut. Alors si un jour il me dit travaille sur l'or et que vous me voyez, ça veut dire maman, maman, quelle place qu'il a cet homme-là, regarde, il en chasse les rubis. Et si un jour vous voyez coude, bien quel rôle de ministère il a dû mis, eh bien si c'est mon Dieu qui me le dit, que j'aille la joie de coude pour lui. C'est Spurgeon qui a dit un beau conseil. Il a dit aux jeunes serviteurs de Dieu de son temps, il a dit mes collègues, n'ayez pas honte de fendre du bois, de cirer vos chaussures. Si c'est pour un témoignage qui glorifie Dieu. C'est un petit détail de rien, si vous voulez. Eh bien, tout ce qui est fait pour Jésus, c'est magnifique. Vous déplacez une montagne, quelle foi qu'il vous faut. Vous déplacez une brique, si c'est pour Jésus, il vous faut de l'obéissance. Il vous faut peut-être moins de foi, mais il vous faut de l'obéissance. Et ça va servir à Jésus. Alors, Bézalel, travaillez tout, et que le Seigneur soit béni. Et la note pour lui, c'est ça. Bézalel, dit le texte biblique, avait de l'intelligence et de la sagesse pour savoir et pour faire. savoir et faire. Parce que si c'est juste pour savoir sans faire, notre service est inutile. Dieu ne nous a jamais demandé d'avoir un gros cerveau pour le cerveau. Il nous a demandé de savoir pour faire quelque chose. Et il y en a qui n'en savent trop, mais qui font rien. Ça va pas devant Dieu. Si je t'ai rendu capable, Zalaël, si je t'ai donné le don, c'est pour que tu saches, mais en même temps pour que tu fasses. Alors mes frères, nous ne nous contentons pas de savoir, mais faisons pour lui quelque chose. Il y en a trop qui savent tout et qui font rien. Ils ont toutes les capacités, ils font rien. Ils ont l'intellectualité, ils ont la linguistique, ils ont même le portefeuille, si vous voulez, pardonnez-moi si je vous choque. Mais ils sont jamais disponibles. Ils sont jamais disponibles pour l'œuvre de Dieu. Alors vous comprenez que toute cette grande science, cette capacité et tout ce que vous voulez, si elle n'est pas mise au service de Dieu dans la disponibilité, eh bien c'est à Dieu même que nous rendrons des comptes. Alors que nous puissions jumeler dans la simplicité la plus grande notre savoir avec notre faire. D'ailleurs, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, dit la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et selon la règle, vous savez que moi, je ne sais pas, mais je pense que mes copains pareil, vous savez qu'on n'a rien écrit dans la Bible. C'est bizarre ce que je vous dis là. Heureusement, Seigneur, parce que je pense qu'on aurait peut-être trop mis nos pensées. Le Seigneur a permis que la parole soit complète, inspirée par l'Esprit à partir des prophètes et des apôtres et des réflexions et des enseignements du Christ. Mais le texte biblique nous dit bien, et c'est marqué, et vous ne l'enlèverez pas, et je ne l'enlèverai pas. Le texte des Hébreux, je vous cite le verset parce qu'il est beau, Hébreux 7:7, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, jamais le contraire. Bien sûr que l'inférieur peut nous réjouir, et je ne vois pas ici, si vous voulez, d'écraser quelqu'un qui est plus petit que nous, mais c'est normal que c'est l'enfant qui va apprendre auprès du maître. L'enfant va réjouir le maître, il va bénir le maître, mais il ne l'instruira pas. C'est le supérieur, dit la Bible, c'est la règle, qui va bénir, instruire l'inférieur. Alors, on a besoin de cela, on a besoin de grandir, et j'ai vu l'évolution de notre mission. J'ai vu nos chrétiens avec une demande de science biblique, non pas intellectuelle, donc, si vous voulez, au niveau de la théologie, mais d'intérêt pour les règles de la parole de Dieu. Notre école biblique en est la preuve. Au début, tant pis si je trahis un secret, mais ce n'est pas un secret. Nos premiers élèves, et nous aussi, c'est pas d'aujourd'hui. On avait notre page, on avait nos trois mots. Aujourd'hui, on n'en a pas plus, on en a cinq. Hein, on n'a pas beaucoup grandi, mais enfin, peu importe. On avait nos trois mots, et avec nos trois mots, le peuple, nos étudiants montaient au ciel. Ils nous prenaient pour Moïse, ils nous prenaient pour l'apôtre Paul. Hein. Pas de problème. Et avec ça, ils étaient assoiffés. Mais les élèves de 35 ans, vous comprenez bien que, gloire à Dieu, ils acceptent le ministère aujourd'hui puissamment, et eux ont évolué. Mais sans dire que maintenant ce sont des cerveaux, nos gars. Mais on a intérêt de passer 2 heures dans la Bible aujourd'hui avant d'aller à la classe. Et de bien faire attention à ce que l'on dit, parce qu'il est très facile pour qu'un élève nous dise, frère, mais où c'est marqué dans la parole de Dieu ça? Est-ce que tu as un mot? Parce qu'il y a une évolution de doctrine. Et je dis que, gloire à Dieu, ça nous maintient dans la recherche de la parole. Et c'est très important. On ne peut pas faire avaler n'importe quoi à n'importe qui. Si demain on vous conduit en dehors de la règle, si demain on dirige l'église en dehors de la parole de Dieu, en faisant nos fantaisies avec des doctrines erronées, mais vous comprenez bien devant Dieu que vous n'allez pas suivre, et vous aurez raison de ne pas suivre. On n'est pas des pharisiens, que Dieu me pardonne, en vous disant faites ceci, nous on fait tout le contraire. Mais non, vous réclamez de nous non pas une science intellectuelle spirituelle, mais vous réclamez en priorité un témoignage de serviteur de Dieu. Et vous avez raison de le faire, parce que les pharisiens hypocrites disaient aux autres de faire ceci et cela, c'est tout le contraire. Toi qui dis de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui dis de ne pas faire ceci, tu fais cela. Alors la parole de Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de vivre ce qu'on vous enseigne, mes frères. Et on y met notre cœur, non pas pour vous faire plaisir. Il est normal que devant Dieu, le témoignage s'impose. Mais on le fait parce que nous aurons des comptes aussi à rendre. Et nous nous comparaîtrons nous aussi devant Dieu. Et nous comparaîtrons en tant que chrétiens. Bien sûr, en tant que serviteurs de Dieu. Mais en tant que chrétiens. Regardez, il faut une certaine supériorité spirituelle. Il faut un certain engagement spirituel pour qu'un serviteur de Dieu dise comme Paul, et au risque de vous déplaire, je n'ai jamais encore tenu ce langage. Ça fait quand même longtemps que je prêche le Christ aussi. Mais je ne veux pas me diminuer, c'est juste pour nous rappeler la note. L'apôtre Paul a dit à l'église de Corinthe, je veux venir parmi vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. et vous transmettre quelques bénédictions. C'était pas un vantard, l'apôtre Paul. Il n'en mettait pas plein la vue de tout le monde. Il avait reçu de Dieu et il venait le donner à l'Église. Je veux venir vous communiquer. Voilà un homme qui devait être animé d'une autorité de Dieu, d'une spiritualité, d'une supériorité. Car c'est le spirituel qui bénit. Alors ce n'est pas qu'un message qu'on a à donner, ou des mots. On a à donner avec nos petits mots, nos trois mots, nos cinq mots. On doit donner nous aussi. Et vous savez, ça ne me gêne pas de vous dire, mon Sauveur, que cette expérience soit vécue dans ma vie. Je viens vers vous pour vous communiquer, c'était sûr. Je veux vous communiquer quelques dons spirituels. Voilà un homme qui puisait dans le trésor de la grâce et qui le distribuait. Le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et vous le distribuera. Eh bien, nous jouons ce rôle aujourd'hui. Nous puisons dans le trésor de la grâce. Mais pour puiser dans le trésor de la grâce, il faut être au diapason de ce trésor. Et pour le distribuer aux autres, que le Seigneur nous y aide à le comprendre. Que le Seigneur nous y aide à comprendre. Il est dit des sacrificateurs, c'est marqué dans le Lévitique, que le sacrificateur aura la supériorité sur ses frères. Non pas la domination sur ses frères. La supériorité de bénédiction. On venait à lui pour consulter Dieu. Et il représentait l'image du Seigneur. Il aura la supériorité sur ses frères. Et cette supériorité sera pour lui une couronne d'honneur. Alors sans jouer au héros, mon bon Jésus, il faut que je sois à droit. Et je ne suis pas assez, bien sûr. Parce que je ne voudrais pas que vous compreniez qu'il nous faut ceci, cela. Il nous faut surtout les critères de capacité très importants dans certains postes. Peut-être que mes capacités pour les 100, pour les 1000 et pour les 10, avec des postes différents, mais surtout suivi de ces trois mots. Craignant Dieu, on n'aura pas le temps de le voir ce matin. Intègre, on ne va pas en parler, on en parlera une autre fois, notre convention. Et aussi ennemi de la cupidité. Et ce dernier mot, j'aurais voulu vous en parler peut-être plus que tous les autres. Parce que s'il y a des ravages, justement, et s'il y a des refroidissements, et s'il y a des conflits, malheureusement, l'argent y est pour beaucoup, mes frères, vous le savez bien. C'est une racine, dit l'apôtre Saint Paul, de tous les maux. Mais nous verrons ça après. Et puis, le texte termine avec cette phrase que je voudrais terminer. Avec cette phrase. Écoutez ce que dit là Jéthro à Moïse. C'est important. Très important que Dieu nous y aide. La capacité est aussi, telle que ce texte biblique nous est donné, tu réuniras les hommes, ceux qui seront capables d'entendre ma parole et de la mettre en pratique. Alors je dis devant Dieu, et je ne veux rien exagérer devant mon maître, je ne sais pas quelle capacité nous avons spirituelle, intellectuelle, c'est une autre chose, je n'ai pas affaire moi à juger pour vous, j'en ai affaire avec moi déjà, c'est pas mal. Capable d'entendre, eh bien vous écoutez, que celui qui a des oreilles entende. Maintenant la capacité spirituelle et biblique, c'est pas seulement d'entendre, c'est de mettre en pratique, dit la Bible. C'est pas celui qui me dira « Seigneur, Seigneur », dit le Christ, mais celui qui mettra en pratique la volonté de Dieu. Alors, capable d'entendre la parole, mais aussi surtout de l'accepter pour le mettre en pratique. Et écoutez ce que dit Jésus, termine cette phrase avec lui. L'évangile de Marc nous rapporte la note, chapitre 4, verset 33. Jésus leur annonçait la parole selon la capacité qu'ils avaient de l'entendre et de la comprendre. Et souvent, il parlait en parabole, et je n'aimerais pas trop me définir par rapport à ce mot, car derrière ça, il y a le plan de Dieu, parce que Jésus va jusqu'à dire, dans l'évangile de Matthieu, lorsque les apôtres leur ont dit, mais pourquoi tu leur parles en parabole, en images cachées? Et Jésus dit, afin qu'en écoutant, ils ne comprennent pas, et qu'en voyant, ils ne voient point. Est-ce que Jésus veut nous parler pour pas qu'on comprenne? Ça, c'était pour Israël, à cause du plan de la grâce, parce qu'Israël est tombé dans l'endurcissement. Jamais Jésus nous parle pour pas qu'on comprenne, parce que dans ce cas-là, ça va plus. Jésus nous parle, c'est pour qu'on comprenne et qu'on mette en pratique, mes frères. Mais néanmoins, il parlait selon la possibilité de réception. Et le Seigneur est tellement sage, c'est que si tu comprends dans ton cœur, au fond de ton cœur, cette parole de Dieu, et que tu dis, voilà le mot de Dieu pour moi, et que tu le mets en pratique, alors tu as accompli la volonté de Dieu dans ta compréhension. Bien sûr que demain elle va évoluer, mais Dieu ne te rendra pas responsable de ce que tu ne connais pas. Mais si tu veux comprendre et mettre en pratique, alors mets en pratique ce que tu as compris déjà ce matin. Dieu demande à ses serviteurs, à ses enfants, à ses serviteurs, cette parole de Dieu. Voilà, je passe tout ceci, je ne peux pas. laissez-moi vous dire, parce que je pense qu'il faut, je sais que 10 minutes simplement, j'en ai assez, des hommes, le dernier mot, parce que les autres, je ne peux pas vous en parler, on verra bien, les hommes que je me veux pour servir, pour diriger mon peuple, pour conduire mon troupeau, pour diriger mes églises, c'est le même mot, qu'ils soient responsables de 10 ou 2 000, je les veux des hommes ennemis de la cupidité. Alors laissez-moi vous dire ce petit mot-là, la cupidité, c'est pas l'argent en soi-même, c'est l'amour de l'argent. C'est cette possession. Certains en ont été possédés. L'apôtre Paul emploie le mot possédé, lié par, tenu par, prisonnier par. Certains en ont été possédés, ont tombé dans bien des tourments, et se sont même évolués du Seigneur. Et on sait, sans donner des images à personne, on sait où a conduit justement ce détail. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous en parler en détail, parce qu'il y a plusieurs pages à parler, mais je voudrais rappeler, juste là, et nous terminons quelques mots, un mot de la Bible, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Se livrer, c'est un danger. Et un danger qui nous guette, contentons-nous de ce que nous avons. Ça ne veut pas dire devant Dieu qu'il ne faut pas avoir une petite vie décente, il ne faut pas tricher devant le Seigneur. Celui qui peut avoir une petite vie correcte et qui gagne son petit pain, ben c'est bien. L'apôtre Paul a tellement été équilibré qu'il a dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Il ne s'agit pas d'être feignant, de se lever à 11h du matin et de dire « Seigneur, envoie les corps pour me nourrir ». Si vous serez Élie dans le désert, peut-être que ça serait une chouette que d'en vous nourrir à vous. Mais on n'est pas Élie, nous. Il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire. Mais dans l'équilibre de la parole de Dieu, c'est Lemuel qui a dit « Quelle parole de sagesse, un des rois de la Bible, dans le Proverbe chapitre 30. » Je te demande deux choses, Seigneur. Ni pauvreté, c'est très dangereux, mon Dieu, j'ai ma barque à faire vivre, mais les richesses sont autant dangereuses que la pauvreté. Alors accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. L'équilibre, je crois que nous sommes arrivés à un bloc où il y a un danger qui menace. Pourquoi tant de refroidissement pour certains? Pourquoi de relâchement pour d'autres? Et même dans le rang du serviteur de Dieu, des fois. Parce que la part du gain a pris bien souvent le dessus. Le dessus, et c'est important ce mot-là. Il en est ainsi, dit là, le Seigneur, pour celui qui est riche pour lui et qui est pauvre pour Dieu. Riche en Dieu, dit l'apôtre. C'est important, et c'est ça qu'il nous faut être riche en Dieu. On les voit, les riches en Dieu, ils ont toujours quelque chose. Non pas pour essayer de prétendre, mais les riches en Dieu ont toujours du pain frais, mes frères. Ils ont toujours de l'eau fraîche, mes frères. Ils ont toujours un mot de Dieu, et c'est important, alors que nous puissions être riches en Dieu, et que nous puissions ainsi être, ne pas tomber. Regardez ce qu'il est dit, des fils de Samuel. Mon Dieu, Samuel, le prophète des prophètes. Eh bien, on peut avoir un père comme Samuel, vous savez, hein. C'est-à-dire, on peut sortir d'une génération de prophètes. C'est pas le père qui fera le fils prédicateur, c'est l'expérience personnelle qui fera le monsieur. Comprenez ça? Eh bien, il est dit des fils de Samuel, les fils de Samuel se livraient à la cupidité et à la violence en méprisant l'Éternel. Ils sortaient pourtant d'une bonne école, les petits messieurs, hein. Avoir un père comme Samuel, il fallait en avoir un, hein. Et là, vous savez, si c'est pas la grâce de Dieu et les désirs du frère, vous serez le fils de l'intel, vous ne serez peut-être pas pourtant l'instrument de Dieu. Il faut que votre expérience soit personnelle, frères et sœurs. Il faut que notre expérience soit personnelle, et c'est très important comme cela. Alors avant que nous ne prions Dieu, laissez-moi vous dire ces quelques mots très importants, magnifiquement importants. On ne peut pas, c'est le maître, je le versais, c'est un exemple que je vous dis, on ne peut pas servir Dieu. C'est pas moi qui l'a dit, mon baron d'Evel. Ça paraît choquant ce mot-là. Et je voudrais pas vous choquer, je voudrais vous donner un équilibre et me donner un équilibre. On ne peut pas servir Dieu et maman. Jésus l'a dit, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors l'exemple, et j'arrête là. Achan, qui connaît pas Achan? Un vaillant parmi les vaillants, faisant partie de l'équipe de serviteurs de Dieu, de l'équipe de Josué. Il a combattu vaillamment. Il a gagné les victoires avec ses frères. Et à un moment donné, dans la bataille de Jéricho, alors qu'il travaillait vaillamment pour le Seigneur, en maniant l'épée certainement, d'un seul coup ses yeux, ça aurait été aveugle, ça aurait été mieux. Enfin, il pourrait un peu plus combattre en plus. Ses yeux ont tombé sur un lingot d'or. C'est rien pour certains, il y en a qui en ont des centaines de lingots. Mais des fois, la moitié d'un lingot fait détruire tout le monde. Tomber sur un lingot d'or. 300 cycles d'argent, les tailles. C'est le prix presque de la trahison, ça. Il a tombé sur un manteau de chinéar.
Parce que j'étais du vison, enfin, ça correspondait à un truc de malheur. Et c'était fini. Son cœur a été pris là. Il y en a qui l'ont, les autres l'ont vu aussi, mais leurs cœurs n'ont pas été pris. Lorsque le cœur est pris, quel danger, Seigneur Jésus. Il y en a d'autres que lui qui a vu ça, peut-être. Peut-être, hein, il ne le dit pas, mais supposons. Mais le combat pour Dieu restait toujours plus important. Et dès qu'il a pu s'esquiver, le monsieur, dès qu'il a pu essayer de se sauver, il a arrêté le combat, il a rentré dans la tente où il avait vu ça, et puis il a pris ça, il s'est fait un trou, se l'a caché. Il a continué à combattre. Mais c'était fini, sur le champ de bataille, il n'était plus là. Il n'était plus là. Il était là-bas, dans sa cachette, avec son lingot d'or, ses cycles d'argent et son manteau de chinéard. Où nous sommes avec Jésus dans le combat, où nous sommes avec notre cachette, et nous ne pouvons pas avoir la victoire. Et je vous le dis, frère, c'est important pour nous tous. C'est important pour moi, c'est important pour vous. Et ce qui est important pour Josué, c'est que non seulement lui a perdu plein de trucs, il a perdu beaucoup, il a perdu gros, mais c'est qu'il a entraîné Israël dans la défaite. Il a entraîné Israël dans la défaite. Et je ne veux pas ici dire des mots que je ne crois pas, que je ne pense pas. Nous sommes ici quand même dans le contexte de la loi. C'est sûr que la désobéissance de l'un va peut-être infecter, va peut-être créer des troubles, mais je pense que le maître nous gardera, nous, en tous les cas, toujours vaillants sur le champ de bataille. Parce que si on dit c'est à cause de l'un que tout s'écroule, alors je vous appelle à vous dire non, mes frères.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseignemoi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.